Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Une édition du quart d'heure lyonnais entièrement dédiée à la fête des Lumières. Lyon célèbre la 25e édition de cet événement qui a marqué toute une génération de Lyonnaises et de Lyonnais. Pour la première fois en 1999, Raymond Barre, alors maire de Lyon, lançait cette idée, comme pour prolonger les traditionnelles illuminations du 8 décembre. Son successeur Gérard Collomb allait contribuer à perpétuer l'événement. 25 ans plus tard, la fête des Lumières est toujours là, mais s'est adaptée à son époque. D'abord en investissant de nouveaux quartiers, Grégory Doucet, l'actuel maire écologiste de Lyon.
On est déjà allé à la Duchère, aux États-Unis. Place Voltaire dans le 3e. Cette année, c'est le Gros Caillou à la Croix-Rousse. Et oui, on monte à la Croix-Rousse cette année. Mais c'est aussi la Cité Jardin dans le quartier de Gerland qui fête son centenaire. Alors voilà, on a souhaité, avec les habitantes et les habitants de la Cité Jardin, monter une œuvre participative. Je peux vous assurer que les enfants comme les parents, eh bien, ils travaillent depuis des semaines et que eh bien, l'œuvre vaudra le détour. Donc de la proximité, c'est ça aussi qu'on veut pour la fête des Lumières. Toujours plus d'éco-responsabilité avec, grâce au travail eh bien, d'Audrey, des équipes de la DEA, des services de la ville, eh bien, l'obtention de cette norme ISO 20121. C'était un engagement très très fort que nous avions pris en augmentant l'éco-responsabilité de cette fête avec un soin particulier, bien sûr, aux modalités d'éclairage, parce que c'est quand même la fête des Lumières, mais aussi sur tous les aspects, les déplacements, les achats, l'alimentation, voilà, la restauration aussi. C'est quelque chose de très important, surtout quand on est capitale de la gastronomie, n'est-ce pas? Et puis, dernière chose importante aussi, on y travaille depuis le début de ce mandat, et là, encore une fois, cette année, eh bien, les efforts payent. Une fête des Lumières inclusive, accessible, juste à quelques mètres ici, on a le stand en dit accueil, qui permet eh bien, d'informer, mais aussi d'aider les gens à s'orienter. Et puis, on a un certain nombre d'œuvres pour lesquelles il y a une traduction, vous savez, notamment le fameux gilet vibrant là, qui est proposé. Bref, on fait en sorte que cette fête des Lumières, elle soit bien sûr ouverte sur le monde, mais qu'elle soit ouverte à toutes et à tous, quelle que soit eh bien, sa situation, c'est fondamental pour nous.
2024 renoue avec les œuvres mythiques des éditions précédentes. C'est ainsi que la place Bellecour retrouve sa boule de neige entourant la statue de Louis XIV. Jacques Rival avait déjà fait sensation en 2006 et 2007. Faire de cette installation une œuvre anniversaire était donc une évidence. Nous avons croisé l'artiste sous la queue du cheval.
À Levion, c'est un projet qui met en scène une boule à neige monumentale sur l'espace public, sur la place Bellecour, et qui prend comme matériau le centre de la ville de Lyon, c'est-à-dire la place Bellecour, dans une œuvre souvenir, une boule à neige souvenir, comme toutes les boules à neige qu'on a pu connaître enfant et à travers les voyages. L'idée, c'était de faire un clin d'œil à la force un peu pittoresque du lieu, à la force, l'attraction très forte du tourisme sur ce lieu, et du coup, d'en faire une caricature avec cette boule à neige géante, avec la logotype I Love Lyon, un peu qui reprend la logotype new-yorkaise qu'on a tous, que toutes les villes ont développé à travers les époques. L'idée, c'est aussi de travailler sur un projet un peu universel qui touche un peu le cœur des hommes et qui nous fait revenir dans un monde plus enfantin, plus léger, parce qu'on a effectivement on a besoin de ça en ce moment en plus. Donc voilà, c'est le projet qui est censé être compris et facilement et un peu universel dans l'approche.
Est-ce que cette œuvre elle a évolué depuis sa première apparition ici? Je crois que c'était en 2006-2007, il y a eu deux années, dont une qui était un peu loupée à cause du vent, si je me souviens bien.
En fait, la première année, comme cette première soirée, elle a très bien fonctionné. Simplement, il y a une tempête à 2h du matin avec des vents de plus de 120 km/h, et là on est battu parce que une structure gonflable avec des vents avec cette force là, c'est pas possible de tenir un objet comme ça. Et donc du coup la mairie, les gens étaient très frustrés, on l'a démonté le lendemain à la première heure, et du coup on nous a dit il faut vraiment en refaire une, et on en a refait une, et ça nous a permis par la suite de refaire des boules à neige en France et à l'étranger, en Europe et dans le monde. Voilà.
Et en 2024, qu'est-ce qui change par rapport à la version initiale?
Alors, ce qui change, c'est la forme déjà. On a pris la forme plus sphère que la forme dôme, parce qu'il y a deux types de boules à neige. On travaille avec une signalétique qui est en néon LED et pas en néon comme on pouvait faire il y a 20 ans, qui ne change pas de couleur. Donc on peut travailler la gradation de couleur, les températures de couleur en lien avec l'éclairage. On a aussi un travail du socle qui est un petit peu différent, mais globalement, l'objet garde son côté majestueux, donc ça fonctionne. La magie opère toujours. jours.
Toi qui as l'expérience lyonnaise, est-ce que le fait d'être venu à Lyon là, une fois déjà, une deuxième fois aujourd'hui, est-ce que ça crée une page supplémentaire sur le CV? Est-ce que ça permet de gagner d'autres marchés derrière?
En fait, moi déjà, je suis très fier de pouvoir participer aux 25 ans de la fête. En tant que lyonnais, en tant qu'artiste, c'est important d'en faire partie. Après, cette installation-là, pour moi, ce qui est important avant tout, c'est pouvoir, à travers les années, pouvoir la montrer à d'autres générations qui en ont entendu parler mais qui ne l'ont pas vue. Et là, c'est chose faite ce soir. Et après, peut-être qu'effectivement, ça peut donner d'autres projets. Ça peut faire un effet, je ne vais pas faire des jeux de mots, mais ça peut faire un effet boule de neige par la suite sur d'autres lieux. Ce qui m'a permis, effectivement, la Fête des Lumières m'a permis aussi de m'ouvrir à d'autres marchés, d'autres, parce qu'il y a beaucoup de... La Fête des Lumières est précurseur au niveau du Festival Lumière depuis de nombreuses années. De faire partie de ces projets qui sont un petit peu incontournables, ça nous permet aussi de pouvoir être consultés pour faire d'autres projets ailleurs.
Deux Inuits, joueurs, curieux et voyageurs, font aussi leur comeback pour cet anniversaire. Les Lyonnais les ont découverts sur les façades de la gare Saint-Paul, de l'Opéra. Ils ont pu aussi les apprécier sur la place Bellecour dans une version gonflable. Plus que jamais gonflés à bloc, les Anoukis jouent à cache-cache entre les arbres du parc de la Tête d'Or avec un seul objectif, faire patienter les visiteurs du parc.
Je suis Moëtou Battle. Je suis co-créatrice des Anoukis avec David Passegan. Le démarrage de ce projet, c'était en 2018 sur la place Bellecour où on avait créé des structures monumentales gigantesques adaptées à la place Bellecour. Et puis, on a souhaité les présenter dans d'autres festivals, de les faire voyager. On a créé des formes plus petites et plus variées, plus nombreuses. Et là, c'est le retour des Anoukis à Lyon, le retour à la Fête des Lumières ou qui les a quand même vus naître. En 2012, lors de la première présentation de notre premier spectacle, on a senti une vraie adhésion du public. C'est vrai que les Lyonnais se sont très vite appropriés ces personnages qu'on a revus en 2014 puis 2018. Et il y a un vrai attachement des Lyonnais aux Anoukis et des Anoukis à Lyon aussi, parce que nous on vit ici. Et puis c'est une fête qui est fantastique, qui nous a permis de faire plein d'autres fêtes. La Fête des Lumières, c'est une fête qui est vraiment copiée dans le monde entier, en fait. C'est un vrai modèle d'événement. Ils véhiculent des valeurs d'amitié, de vivre ensemble, ils communiquent leur bonne humeur. Ils font aussi un petit peu réfléchir sur des sujets qui sont plus graves, mais ils le font de façon ludique. Et du coup, ils touchent peut-être davantage les gens. Donc, on a constaté depuis plusieurs années qu'ils attirent beaucoup les petits, évidemment, mais en fait, les grands se sentent aussi très souvent concernés. Et on va être effectivement au moment de la queue pour rentrer dans le parc de la Tête d'Or, et c'est une petite distraction. On a aussi ajouté du son à l'installation. Ce sont les voix qui sont extraites de différents spectacles.
Il y a combien de mots dans le vocabulaire Anouki?
Oula. Plein. Les enregistrements sont assez drôles.
C'est un spot incontournable de la fête. De nombreux artistes lumière l'ont utilisé comme terrain de jeu au fil des 24 éditions précédentes. La place des Terreaux, qui offre deux belles façades, celle de la mairie et celle du Palais Saint-Pierre, avec pour témoin les chevaux de Bartholdi. En 2008, le petit géant les invite dans ses rêves. En 2024, cette jolie histoire à dormir debout est de retour et nous interroge sur le rôle de la poésie dans notre monde de fous. Benoît Quérault, des Allumeurs d'Images.
On est très heureux de revenir à Place des Terreaux, présenter le retour du petit géant. En fait, le spectacle s'appelait « On dirait que », avec trois petits points de suspension. Le héros de notre projet, c'est un petit géant. Et parce qu'on a joué sur les échelles, et les échelles de l'architecture, etc. Et puis, un petit peu ce regard d'enfance qui peut, comme on peut imaginer chacun, avoir une cour d'école très grande quand on est petit, redimensionner les choses, parce que dans les rêves, tout est possible. Et ici, c'est une histoire à hauteur d'enfant, comme dans un rêve, mais qui n'est pourtant pas si naïf que ça, puisque le cauchemar qui va arriver quand l'enfant s'endort révèle une part de l'environnement, de la société qui nous entoure. Et en 2008, c'était déjà vrai. Et en 2024, c'est non moins vrai. L'idée, notre petit géant, en fait, va trouver un moyen particulier, un moyen à lui d'arrêter ce cauchemar en faisant pipi. Ce pipi va submerger ce monde infernal pour faire que, avec des droites qui vont devenir courbes, etc., dans l'eau, dans le milieu aquatique, on fasse danser les chevaux de la place des terreaux. Et en fait, le petit géant ouvre un coffre à jouets pour réenchanter le monde. Voilà l'histoire qu'on veut raconter.
Comment on l'a fait évoluer depuis 2008, le spectacle ? Parce qu'on dit qu'ils ont tous un petit peu évolué, finalement. Hein.
Pas beaucoup. On a voulu garder l'essence poétique de ce projet. Et c'est même une curiosité intéressante de notre point de vue. C'est de juxtaposer notre proposition poétique face à un monde qui va être de plus en plus numérique ou technologique. Je ne sais pas si ça raconte grand-chose, mais en tout cas, je pense que le plus important, pour nous en tout cas, c'est notre choix, c'est de raconter des histoires.
C'est un beau terrain de jeu, la place des terreaux, pour un artiste lumière. C'est le plus beau à Lyon.
Non, je dirais pas ça, mais bien sûr, on est au cœur de la fête des Lumières. Nouvelle version, bien sûr, depuis ces 25 ans, avec cette obligation qu'on a de respect et de faire un travail de qualité pour le public très nombreux qui fréquentent le lieu. Et du coup, ça nous oblige. Et c'est vrai que la fête des Lumières a une place importante dans le monde. Et on est conscient de ce rapport au monde. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire un projet le plus abouti possible qui concerne les gens. C'est pas juste un regard d'artiste. C'est en même temps un projet pour parler aux gens, pour ouvrir des espaces de rêve. Et je crois que le monde actuellement a besoin d'avoir quelques éclaircies, dans le domaine de l'imaginaire.
Et là, ça démarre. Hein.
Alors, on a une représentation imagée d'une urbanité habitée. Et par contre, une chambre, qui est la chambre du petit géant, qui s'endort avec sa maman qui lui fait un bisou et le petit géant qui va dire « ne ferme pas la porte » avant de s'endormir et de partir dans son cauchemar.
La fontaine des Jacobins est un terrain de jeu bien connu de Patrice Warner. L'artiste français et inventeur du procédé chromolithe sublime le monument pour la quatrième fois. Que les Lyonnais se rassurent, non, la fontaine qui rend hommage à Flandrin, Audran, Coustou et Philibert Delorme n'a pas été repeinte ni taguée. La magie s'éteindra dimanche soir. Patrice Warner.
La fontaine des Jacobins, déjà, j'avais repéré en 99, à l'occasion de mes premières interventions à Lyon sur la mairie, etc. Et en passant devant la fontaine, je me dis, ah, c'est bien quand même, cette fontaine, elle me plaît bien, ça serait bien de la faire un jour. L'occasion s'est présentée, ça s'est fait en 2000. Mais surtout, l'intérêt, c'est que c'est pas une façade, c'est une sculpture, c'est un monument, c'est une fontaine, bien sûr, c'est en 360 degrés. Et ça, c'est très intéressant pour les gens qui touchent à la lumière, à la couleur et tout, parce que c'est pas plat, quoi. On est dans une autre dimension. On est dans la 3 dimensions. Et ça, c'est intéressant.
On met de la couleur sur les pierres, c'est ça ?
Oui, on met la couleur sur les pierres. Moi, j'ai baptisé le procédé chromolithe, la couleur, lithe, la pierre, vous voyez, parce qu'il faut lui donner un nom. Donc, c'est bien ça, là. C'est la couleur sur la pierre.
Ça veut dire que la fontaine est modélisée au départ ?
Pardon ? Oui, alors en fait, elle est modélisée, mais d'une certaine manière. En fait, j'ai fait une photo très haute définition avec une chambre photographique grand format que j'ai mis au point à partir d'éléments du commerce, mais que j'ai adapté à mes besoins. Donc c'est une chambre qui permet de faire une photo noir et blanc, tout ce qu'il y a de plus classique, mais en très très haute définition, qui peut être très était n'importe où dans le monde, dans une chambre d'hôtel et tout. Et avec ce négatif noir et blanc, ensuite, bah, les choses sérieuses commencent, c'est-à-dire on le met dans l'ordinateur, on va le scanner, on va le mettre dans l'ordinateur, et là, on va commencer le travail proprement dit de mise en couleur. Alors maintenant, tout le monde connaît Photoshop, mais il y a 25 ans, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient Photoshop. J'ai commencé à travailler avec Photoshop, qui est un outil fantastique. Et donc là, le travail de colorisation commence, qui prend des jours, des semaines, voire des mois, vu la complexité des choses. Ensuite, quand le travail est fini, on donne les data à un laboratoire spécial à Paris qui va vous faire les films qui sont dans les quatre machines qui sont là. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à faire quelque chose d'abord d'esthétique, faire plaisir. C'est comme faire un morceau de musique. On va faire un morceau de musique, on va essayer de le faire le plus joli possible. Ah ben, quand vous êtes devant un truc comme ça, vous allez essayer de travailler les couleurs de façon à les faire les plus jolies possibles. Il y a une analogie entre la... D'abord, on dit jouer, hein. On jouait de la musique, on joue. Alors moi, j'aime bien jouer avec les couleurs et c'est un jeu comme la musique. Il y a une analogie, vous voyez. Alors après, il y a une expérience qui fait que vous savez comment manipuler les couleurs. Vous avez vos propres règles de mise en couleur, les couleurs complémentaires, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Je suis très attaché à Lyon. Je pensais pas revenir, mais j'ai presque... C'est pas prétentieux, mais j'ai presque tout fait. Et puis là, le directeur de la Fête des Lumières m'a appelé au début de l'année. Là, on va refaire pour les 25 ans, on va faire la fontaine des Jacobins. Alors, j'ai pas dit non. Mais c'est très particulier de revenir comme ça, faire quelque chose que vous avez déjà fait. C'est pas désagréable, mais c'est un sentiment différent. Mais j'étais sûr de mon coup en venant ici avec les machines, les films. J'étais sûr que ça marche. J'avais déjà vu dans ma tête. Voilà. Mais c'est une autre impression, mais c'est pas désagréable.
Comment vous l'avez fait évoluer, votre œuvre ?
La principale chose qui doit évoluer, hormis la technique de précision et tout, c'est, j'en reviens à la musique, c'est de faire quelque chose le plus esthétique possible, quoi, et crédible, et vous voyez, c'est ça. Donc, ça se vient pas du jour au lendemain, les manipulations des couleurs et tout, c'est comme jouer à la musique encore, on joue pas à la guitare comme ça du jour au lendemain. Là, c'est un peu pareil, quoi, les manipulations des couleurs. Là, il y a 30 ans de travail avant ça, quoi.
Au total, 6 œuvres font leur retour après avoir été ressorties du coffre à souvenirs. Mais cette édition 2024 fait aussi la part belle à de nombreuses réalisations inédites. Place des Célestins, Flux, des barres de LED s'animent et dessinent une spirale. La musique joue aussi un rôle essentiel. Vincent Boudier du collectif Scale.
Cette œuvre, en fait, techniquement, c'est des barres de LED qui sont montées sur des moteurs qui peuvent tourner à l'infini. Et l'idée, c'était de créer... on a développé un logiciel qui permet de contrôler tout ce mouvement et de créer une forme très organique et très épurée. C'est une sorte de vague, c'est un flux. Des fois, ça fait des croix, des fois, ça tourne vite, des fois, ça tourne lentement. Faut complètement laisser parler ses émotions. Il n'y a pas grand-chose à décrypter. C'est vrai que nous, on n'est pas des artistes de concept ni de sens. On est vraiment des artistes de forme et d'émotions complètement, oui.
A l'inverse, l'artiste allemand Philippe Franck a voulu interroger sur la fragilité des espaces marins avec son œuvre Coral Ghost dans les bassins de la place de la République.
Mon œuvre s'appelle Coral Ghost. C'est une œuvre qui est faite d'anciennes filets de pêche nommés filets fantômes. On les a récupérés avec une entreprise marseillaise et j'ai créé un récif corallien artificiel, abstrait, pour symboliser avec ça un petit peu la fragilité de la nature et de notre mer. Comme vous le savez très bien, les coraux sont en danger. Il y a la blanchisse des coraux, le réchauffement climatique, le réchauffement de la mer. Et ça affecte beaucoup ce écosystème très fragile. Avec mon œuvre, je veux jeter un petit peu de lumière là-dessus d'une manière... esthétique, sans lever le doigt, mais faire réfléchir les gens sur la fragilité de notre planète. La nature m'intéresse beaucoup et la protection de la nature, pareil. Je trouve que nous, comme êtres humains, on est connectés à la nature, on fait partie de la nature, on a seulement une planète. J'aime bien mettre lumière sur ce sujet.
Inspirante ou contemplative, sortie du coffre à souvenirs ou inédite, les 32 œuvres de la Fête des Lumières sont visibles tous les soirs de 19h à 23h, le dimanche de 18h à 22h. Oh,